Rudyard Kipling, L'homme qui voulut être roi. 1888, The Man Who Would Be King. Traduction par Louis Fabulet et Robert Dumière. Conte. Le commencement de tout, ce fut dans le train sur la route d'Ajmir, un mot. Un déficit budgétaire, survenu à cette époque, nécessitait le voyage non pas en seconde, qui ne coûte que la moitié du prix des premières, mais en classe intermédiaire, ce qui est absolument odieux. Il n'y a pas de banquette rembourrée en classe intermédiaire, et le public y est soit intermédiaire, c'est-à-dire eurasien, soit indigène, ce qui finit par incommoder au bout d'un long trajet, soit de l'espèce vagabond, genre d'esprit quoique ivrogne. Les intermédiaires ne patronnent pas les buffets de chemin de fer. Ils portent leurs vivres dans des paquets ou des pots, achètent des sucreries aux marchands de bonbons indigènes et boivent l'eau le long des routes. C'est pourquoi, en été, on les extrait parfois défunts de leurs compartiments et qu'en toute saison, on leur témoigne à juste titre un minimum de considération. Mon compartiment à moi resta vide, par hasard, jusqu'à la gare de Nazibabad, où un monsieur de considérable prestance et en bras de chemise y pénétra, et selon la coutume des intermédiaires, se mit incontinent à l'aise. C'était un errant, mais un vagabond, comme moi-même, doué par surplus d'un goût cultivé pour le whisky. Il racontait des choses vues ou accomplies en tel coin perdu de l'Empire où il avait pénétré, des épisodes de vie risqués pour la subsistance de quelques jours. Si là ne comptait que des gens comme vous et moi, qui ne savent pas plus que les corbeaux, où ils prendront leur ration du lendemain, ce n'est pas 70 millions de revenus que produira le pays, mais 700 millions, disait-il. Et à regarder sa bouche et ses mâchoires, je sentais enclin à partager son avis. Nous parlâmes politique. Cette politique des gueux et de leur république qui voit l'envers des choses. Le côté dont on n'a point poli les lattes, ni le plâtras. Et nous causâmes organisation postale, parce que mon ami voulait envoyer une dépêche de la prochaine station à Ajmir, où bifurque sur Meaux la ligne de Bombay, quand on vient de l'Est. Mon ami n'avait pas d'argent, sinon 8 annas, qu'il réservait pour son dîner, et je n'avais moi pas d'argent du tout, en raison de l'accro budgétaire mentionné plus haut. De plus, je m'enfonçais dans les solitudes, lesquelles, bien que je dusse y reprendre contact avec le trésor, manquaient de bureaux télégraphiques, et je me trouvais en conséquence parfaitement incapable de lui venir en aide. On pourrait bousculer un chef de gare et lui faire expédier une dépêche à l'œil, dit mon ami, mais il s'en suivrait des enquêtes sur vous et moi, et je suis vraiment trop occupé ce jour-ci. Vous disiez que vous reveniez par la même ligne prochainement ? « Dans 10 jours, répondis-je. « Vous ne pourriez pas réduire à 8 ? » dit-il. « Mon affaire est plutôt pressée. Je puis envoyer votre télégramme dans 10 jours au plus tard, si cela peut vous rendre service, dis-je. Réflexion faite, j'aurais peur de manquer mon homme maintenant si j'envoyais une dépêche. Voilà ce que c'est, il quitte Delhi le 23 pour Bombay. Cela veut dire qu'il passera à Ajmir dans la nuit du même jour. « Mais je serai au fond du désert, expliquai-je. » « Parfaitement, dit-il, vous changez à Marwar pour entrer dans le territoire de Jodhpur. C'est nécessaire. Et lui passera à Marwar avec la malle de Bombay, de bonne heure, dans la matinée du 24. Pouvez-vous vous trouver à ce moment à la gare de Marwar? Cela ne vous dérange à guère. Je sais qu'il n'y a pas grand-chose à faire dans ces états de l'Inde centrale, même en se faisant passer pour correspondant du Black Swordsman. Vous y êtes allé, de ce truc-là ? Demandai-je. Des masses de fois. On se fait pincer par les résidents et ramener à la frontière avant d'avoir eu le temps d'amorcer. Mais pour l'ami dont je vous parle, Il faut absolument que je lui fasse connaître de vive voix ce que je suis devenu, ou bien il ne saura pas où aller. Ce serait plus que gentil à vous si vous pouviez quitter l'Inde centrale à temps pour l'attraper à Marwar et lui dire il est allé au sud pour la semaine. Et il saura ce que ça signifie. C'est un fort bonhomme avec une barbe rouge et distingué, je vous prie de croire. Vous le trouverez dormant comme un monsieur, tous ses bagages autour de lui en seconde. Mais n'ayez pas peur. Baissez la glace et dites « Il est allé sud pour la semaine. » Il se grouillera. Cela ne raccourcit que de 2 jours votre séjour là-bas. « Je vous le demande comme un étranger sur la route de l'ouest, » dit-il avec emphase. « Et vous, d'où venez-vous » dis-je. « De l'est, » dit-il. « Et j'espère que vous lui ferez la commission sans faute, pour l'amour de ma mère comme de la vôtre. » L'anglais ne s'émeut guère en général d'entendre invoquer la mémoire de sa mère, mais pour certaines raisons qui apparaîtront dans la suite, je crus devoir m'engager. « Il s'agit de choses sérieuses, » dit-il, « et c'est pour cela que je vous demande de le faire. Et je sais maintenant que je peux y compter. Un compartiment de seconde en gare de Marwar et un homme roux endormi sur la banquette. Vous vous rappellerez bien ? Je descends à la prochaine station, et il faut que je reste là, jusqu'à ce qu'il vienne, ou m'envoie ce qu'il faut. Ferai la commission, si je le joins, dis-je. Et pour l'amour de votre mère, comme de la mienne, je vous donnerai un petit conseil. N'essayez pas de faire les états de l'Inde centrale en ce moment, à titre de correspondant du Backwoodsman. Il y en a un vrai qui se balade par là, et cela pourrait mal tourner. « Merci, dit-il avec simplicité. Et quand le pourceau s'en va-t-il ? Je ne peux pas mourir de faim parce que cela lui plaît de me gâter mon travail. Je comptais en paumer le Raja de Dugumbert à propos de la veuve de son père et lui donner le trac. Qu'est-ce qu'il a donc fait, la veuve de son père ? Bourré de poivre rouge, pendu à une poutre par un pied et fouetté à mort à coups de babouche. J'ai découvert le poteau rose. Moi-même, et je suis le seul qui oserait passer les frontières de Dugumbert pour aller faire le prix de ma discrétion. Ils essaieront de m'empoisonner, comme à Shortuma, quand j'allais butiner par là. Mais vous ferez ma commission à l'homme de la gare de Marwar. Il descendit en route à une petite station, et je me mis à réfléchir. J'avais, oui, parlé plus d'une fois de ces hommes qui, assumant le personnage de correspondant de journaux, saignent les petits états indigènes en les menaçant de scandale, mais je n'avais rencontré aucun membre de leur caste auparavant. Ils mènent une dure vie et meurent généralement de mort très subite. Les états indigènes professent une salutaire horreur pour les journaux anglais, toujours susceptibles de mettre en lumière leur méthode originale de gouvernement, et font de leur mieux pour gorger le journaliste de Champagne ou lui tourner la tête à renfort de landau à 4 chevaux. Ils ne comprennent pas que personne ne se soucie pas plus que d'une guigne de l'administration intérieure d'un état indigène, tant que l'oppression et la criminalité s'y maintiennent, dans des bornes raisonnables, et tant que le chef n'y reste pas sous l'influence de l'opium, de l'eau-de-vie ou de la maladie d'un bout de l'année à l'autre. Les états indigènes furent créés par la Providence, afin de pourvoir le monde de décors pittoresques, de tigres et de descriptions. Ce sont de sombres coins de la terre, pleins d'inimaginables cruautés, qui touchent d'un côté au chemin de fer et au télégraphe, et de l'autre au jour d'Haroun al-Rachid. En débarquant du train, je m'acquittai de mes affaires avec divers potentats, et passai en 8 jours, par les phases de vie les plus variées. Tantôt en frac, j'allais de pair et compagnons avec princes et résidents, buvant dans le cristal et servis dans l'argenterie. Tantôt vautrés sur le sol nu, trop heureux de dévorer la première nourriture venue, un chapati me servant d'assiette, je buvais l'eau des ruisseaux et partageais la couverture de mon domestique. Tout cela rentrait dans la besogne du jour. Puis je mis le cap sur le grand désert indien, à la date convenue, comme je l'avais promis. Et le train de nuit me déposa à la gare de Marwar, d'où un drôle de petit va comme je te pousse de chemin de fer, à personnel indigène, bifurque sur Jeport. Le train postal entre Delhi et Bombay fait une courte halte à Marwar. Il arriva comme j'entrais dans la gare et j'eus à peine le temps de courir au quai et de scruter les voitures. Il n'y en avait qu'une, deux secondes dans le train. Je baissai la glace et découvris une barbe d'un rouge flamboyant, à demi cachée par une couverture de voyage. C'était mon homme. Il dormait à poing fermé, et je l'ébranlai légèrement d'un petit coup dans les côtes. Il s'éveilla en grognant, et je vis sa figure à la clarté des lampes. C'était une large figure, à peau qui luisait. « Encore les billets, dit-il. Non, je suis chargé de vous dire qu'il est allé sud pour la semaine. Il est allé sud pour la semaine. » Le train partait. L'homme roux se frotta les yeux et répéta « Il est allé sud pour la semaine ?»« Ça ressemble bien à son impudence. A-t-il dit que je vous donnerai quelque chose ?»« Parce que je n'en ferai rien. » »« Il n'a rien dit, » répondis-je en sautant du marchepied. Les fanaux rouges s'enfonçaient dans la nuit. Il faisait un froid horrible, car le vent soufflait de la région des sables. Je grimpais dans mon propre train, pas en intermédiaire cette fois, et m'endormis. Si l'homme barbu m'avait donné une roupie, je l'aurais gardé en souvenir d'une affaire assez curieuse. Mais la conscience du devoir accompli fut ma seule récompense. Plus tard, je réfléchis que deux compères de l'espèce de mes amis ne feraient rien de bon à jouer les faux journalistes, et pourraient s'attirer des difficultés sérieuses, au cas où ils voudraient appâter un de ces petits pièges à rats d'état indigène de l'Inde centrale ou du Rajputana. Je pris en conséquence la peine de donner leur signalement aussi minutieux que le permettaient mes souvenirs, aux gens qui eussent pu avoir intérêt à les déporter. Et je réussis, comme je l'appris plus tard, à les empêcher de franchir les frontières du Degumber. Puis je redevins personne respectable et réintégrai mon bureau, où ne se produisait ni roi ni incident, sauf la composition quotidienne d'un journal. Un bureau de journal semble avoir le privilège d'attirer une inconcevable variété de personnes, au plus grand préjudice de la discipline. Des dames missionnaires arrive et somme le directeur d'abandonner sur l'heure toutes ses obligations, afin de décrire une distribution de prix d'école chrétienne dans l'arrière-faubourg d'un village d'ailleurs parfaitement inaccessible. Des colonels négligés sur le tableau d'avancement s'installent et ébauchent les grandes lignes d'une série de 10, 12 ou 24 articles de tête à propos de l'ancienneté et du choix. Des missionnaires exigent de savoir pourquoi ils n'auraient pas le droit de changer pour une fois la nature de leur plainte et d'agonir un collègue spécialement placé sous le patronage directorial. Des troupes de comédiens à la cote envahissent les bureaux à l'effet d'expliquer qu'ils ne peuvent pas payer leur publicité, mais qu'à leur retour de Tahiti ou de Nouvelle-Zélande, ils s'en acquitteront avec usure. Des inventeurs de moteurs à pancales patentées, de vis d'attelage pour wagons, de sabres ou d'arbres de couches incassables font visite, des certificats plein les poches et désireux de se voir fixer quelques heures d'entretien. Des compagnies pour la vente du thé entrent, s'assoient et élaborent leur prospectus avec les plumes du bureau. Des secrétaires de comités dansants objurguent avec éclat le rédacteur mondain afin d'obtenir un plus ample compte-rendu des gloires de leur dernier bal. Des dames inconnues font irruption dans un froufrou de jupes et disent « Il me faut un 100 de cartes de visite tout de suite, s'il vous plaît !» ce qui rentre manifestement dans les attributions d'un directeur. Et le moindre, le plus dissolu des ruffians qui jamais ait vagabondé le long de la grande route, se fait un devoir de venir demander une place de correcteur d'épreuve. Et tout le temps, le timbre du téléphone tinte frénétiquement. On tue des rois sur le continent.
des empires se disent « Vous en êtes un autre » et M. Gladstone appelle le feu du ciel sur les colonies britanniques, tandis que les petits typos noirs geignent « Kaipi shai hai yaye » On demande de la copie, comme des abeilles lasses, et qu'aux trois quarts le journal est encore aussi blanc que l'écu de Maud Dredd.
Mais cela, c'est le moment amusant de l'année. Il y a 6 autres mois où personne ne vient jamais, où le thermomètre pouce par pouce grimpe en haut de l'échelle, où l'ombre maintenue dans le bureau permet à peine de lire, où les presses brûlent au toucher, et où personne n'écrit guère que des comptes rendus de fête dans les stations de montagne, ou des notices nécrologiques. C'est alors que le téléphone se transforme en terreur tintinabulante, toujours prête à vous annoncer des morts subites d'hommes ou de femmes que vous connaissiez intimement. Le prickly heat vous recouvre comme d'un vêtement, et l'on s'assied pour écrire. On annonce un léger accroissement dans la mortalité du district de Kuda, Rantakan. L'épidémie, de nature purement sporadique, grâce aux efforts énergiques des autorités locales, est maintenant à peu près vaincue. C'est cependant avec un profond regret que nous enregistrons la mort, etc., etc. Puis l'épidémie éclate pour de bon. Et moins on enregistre, ou moins on rédige à ce sujet, mieux vaut pour le repos des abonnés. Mais empire et roi continuent à se divertir avec autant d'égoïsme que devant. Le chef typographe trouve qu'un journal quotidien ne devrait point en vérité paraître plus d'une fois toutes les 24 heures. Et les gens des stations d'été interrompent leur plaisir pour dire « Mon Dieu, qu'est-ce qui empêche ce journal d'être brillant ? Il se passe bien assez de choses par ici. » Voilà le côté sombre de la situation. Et comme on dit aux annonces, s'il faut en goûter pour en juger. Ce fut en cette saison, pire que jamais cette année-là, que le journal inaugura le système d'imprimer le dernier tirage de la semaine dans la nuit du samedi, c'est-à-dire le dimanche matin comme les journaux de Londres. Précieux avantage qui permettait, une fois la copie sous presse, au rédacteur éreinté de commencer dans la fraîcheur du matin un somme avant que la chaleur le réveillât. L'aube fait baisser le thermomètre de 54 degrés à 42 degrés. Et l'on n'imagine pas comme il fait froid à 42 degrés à l'ombre quand on n'a jamais prié pour cette température-là. Un samedi soir, il me revint l'aimable obligation d'achever le journal tout seul. Un roi, un courtisan, une courtisane ou une communauté allaient mourir, ou obtenir une nouvelle constitution, ou faire quelque chose d'important pour l'autre côté du monde, et le journal devait attendre l'imprimatur jusqu'à la dernière minute possible, afin d'attraper le télégramme. C'était une nuit d'encre, étouffante, une vraie nuit de juin, et le lot, le vent torride qui souffle de l'ouest, bramait dans l'amadou des branches en faisant semblant d'avoir une pluie sur les talons. Par intervalle, une goutte d'eau presque bouillante tachait la poussière avec un flop de grenouilles aplaties. Mais dans sa lassitude, notre univers savait bien que ce n'était que fin. Il faisait une idée moins chaud dans l'atelier que dans le bureau, de sorte que je m'assis là parmi le cliquetis des machines. Les huées des oiseaux de nuit aux fenêtres, les typos, à demi nus, qui épongeaient la sueur de leur front et demandaient à boire. La chose qui nous faisait veiller, quelle qu'elle pût être, refusait d'arriver, quoique le lot fût tombé. Le dernier caractère en place est que toute la terre ronde demeura en suspens, dans la chaleur suffocante, un doigt sur les lèvres, attendant l'événement. Je m'assoupis, tout en me demandant si l'invention du télégraphe constituait en somme un bien, et si ce moribond ou ce peuple en révolte avait conscience du dérangement produit par son retard. Sauf la chaleur et la préoccupation, nulle raison particulière d'énervement, et pourtant, comme les aiguilles de la pendule rampaient jusqu'à 3 heures et que les machines essayaient 2 ou 3 tours de volant avant le mot prononcé qui les lâcherait dans leur carrière, j'aurais pu crier tout haut de fatigue. Soudain, le grondement et la crécelle des machines déchirèrent le silence en minuscules lambeaux. Je me levai pour sortir quand 2 hommes vêtus de blanc s'arrêtèrent devant moi. Le premier dit « C'est lui ». Le second dit « Ma foi, oui ». Et ils rirent tous deux à couvrir le bruit des presses et en s'épongeant le front. Nous avons vu une lumière de l'autre côté de la route, car nous dormions dans le fossé là-bas, pour avoir frais. Et j'ai dit à mon copain que voilà, allons parler à celui qui nous a fait mettre hors de l'état de Degumber, dit le plus petit des deux. C'était l'homme que j'avais rencontré dans le train de Meaux, et son camarade, l'homme à poils roux de la gare de Maroire. Il n'y avait pas à se tromper aux sourcils de l'un ni à la barbe de l'autre. Je n'étais pas content, car j'avais plus envie de dormir que de me chamailler avec des vagabonds. « Qu'est-ce que vous voulez ? » demandai-je. « Causer 1/2 heure, au frais et à l'aise, dans le bureau, » dit l'homme à barbe rouge. « Nous ne refuserions pas à boire. Le contrat n'a pas force encore, Pitcher. Ce n'est pas la peine de faire une tête. Mais ce qu'il nous faut pour de bon, c'est des conseils. Nous n'avons pas besoin d'argent. C'est comme une faveur que nous demandons, rapport au sale tour que vous nous avez joué à propos de Degumber. » Je montrai le chemin qui passait de l'imprimerie au bureau, suffocant, où des cartes pendaient au mur. L'homme roux se frotta les mains. « Il y a du bon, dit-il, nous avons frappé à la bonne porte. Maintenant, monsieur, permettez-moi de vous présenter le frère Pitcher Carnehan. Ça, c'est lui. Et le frère Daniel Dravot, ça, c'est moi. Quant à nos professions, moins nous en parlerons, mieux ça vaudra. Nous avons fait tous les métiers dans notre temps. Soldats, marins, typos, photographes, correcteur d'épreuves, prêcheur en plein vent et correspondant du Blackswoodman les fois où le journal en avait besoin. Carnehan est à jeun, moi aussi. Regardez-nous bien d'abord pour être sûr. Ça vous évitera de me couper. Nous allons prendre chacun un cigare et vous tiendrez l'allumette. Je tentai l'épreuve. Les 2 hommes n'avaient pas bu et je leur fis servir 2 pegs tiédissants. À la bonne heure, dit Carnehan, l'homme aux sourcils, en séchant sa moustache. Laisse-moi parler maintenant, Dan. Nous avons fait à peu près toute l'Inde, le plus souvent à pied. Nous avons été ajusteurs de chaudières, conducteurs de locomotives, petits entrepreneurs et le reste, et maintenant nous avons décidé que l'Inde n'est pas assez grande pour les gens de notre acabit. Ils étaient certainement trop grands pour le bureau. La barbe de Dravot semblait emplir la moitié de la pièce, et les épaules de Carnehan l'autre moitié, assis qu'ils se tenaient tous deux sur la grande table. Carnehan continuait. Le pays ne donne pas la moitié de ce qu'il devrait, parce que le gouvernement ne veut pas qu'on y touche. Ils passent tout leur sacré temps à gouverner, et on ne peut pas soulever une bêche, faire sauter un éclat de pierre ou forer pour de l'huile sans que le gouvernement crie à bas les pattes et laissez-nous gouverner. C'est pourquoi, tel quel, nous allons le laisser en paix et partir pour quelque autre pays où l'on puisse jouer des coudes et faire son chemin. Nous ne sommes pas de petits hommes, et nous n'avons peur de rien, que de la boisson, et nous avons signé un contrat sur ce point. Donc nous en allons être rois. « Rois de plein droit, » murmura Dravot. « Oui, c'est entendu, » dis-je. Vous avez traîné vos guêtres au soleil, la nuit est plutôt chaude et vous feriez peut-être mieux d'aller dormir sur votre idée. Venez demain, ni coup de soleil ni verre de trop, dit Dravot. Voilà 1 an que nous dormons sur notre idée. Nous avons besoin de voir des livres et des atlas. Et nous avons conclu qu'il n'y a plus qu'un pays au monde où 2 hommes à poigne puissent faire leur petit Sarawak. Cela s'appelle le Kafiristan. À mon idée, c'est le coin de l'Afghanistan, en haut et à droite, à moins de 300 miles de Peshawar. Ils ont 32 idoles, les païens de là-bas. Nous ferons 33. C'est un pays montagneux et les femmes de ses côtés sont très belles. Mais ça, c'est défendu dans le contrat, dit Carnehan. Ni femmes ni boissons, Daniel. C'est tout ce que nous savons, excepté que personne n'y est allé et qu'on s'y bat. Or, partout où l'on se bat, un homme qui sait dresser des hommes peut toujours être roi. Nous irons dans ce pays, et au premier roi que nous trouverons, nous dirons « Voulez-vous battre vos ennemis ?» Et nous lui montrerons à instruire des recrues, car c'est ce que nous savons faire le mieux. Puis nous renverserons ce roi. Nous saisirons le royaume et nous fonderons une dynastie.
Vous vous ferez tailler en pièces à 50 miles passé la frontière, dis-je. Il vous faut traverser l'Afghanistan pour arriver dans ce pays-là. Ce n'est qu'un fouillis de montagnes, de pics et de glaciers que jamais Anglais n'a franchi.
Les habitants sont parfaits brutes, et en admettant que vous arriviez à eux, il n'y aurait rien à faire.
J'aime mieux ça, dit Carnehan. Si vous nous trouviez encore plus fous, ça nous ferait encore plus de plaisir. Nous sommes venus à vous pour nous renseigner sur ce pays, pour lire des livres qui en parlent et consulter vos cartes. Nous avons envie de nous faire traiter de fous et de voir vos livres. Il se tourna vers la bibliothèque.
Parlez-vous sérieusement pour de bon, dis-je.
Un peu, dit Dravot, avec onction. Nous voulons votre plus grande carte, même s'il y a un blanc à la place, du Kafiristan. Et tous les livres que vous pouvez avoir. On sait lire, quoique on n'ait pas reçu beaucoup d'éducation. Je dépliai la grande carte de l'Inde à l'échelle de 32 miles au pouce. Deux cartes de frontières plus petites. Descendis péniblement le tome Infkan de l'Encyclopédia Britannica, et mes hommes se mirent à les consulter. « Attention, dit Dravot, un doigt sur la carte, jusqu'à Jacques Dallac. Pitchey et moi, nous connaissons la route. Nous sommes allés là avec l'armée de Roberts. À Jacques Dallac, il faudra prendre à droite, à travers le territoire de Lagman, puis nous entrons dans les montagnes. 14 miles, 15 000 pieds. Il fera frais là-haut, mais ça ne paraît pas très loin sur la carte. »
Je lui passai les sources de l'Oxus, par Wood.
Carnehan était plongé dans l'encyclopédia.
« Ils sont un tas, dit Dravot d'un air méditatif, et ça ne nous avancera guère de savoir les noms de leurs tribus.
Plus il y aura de tribus et plus de batailles, tant mieux pour nous. De Jacques Dallac à Anchang.
Mais tous les renseignements sur la région sont aussi superficiels et aussi vagues que possible, protestai-je. Voici la collection de United Service Institute. Lisez ce que dit Bellet.
Zut pour Bellet, dit Carnehan. Dan, c'est un sacré tas de païens. Mais ce livre-ci dit qu'ils sont apparentés à nous autres, Anglais.
Je continue à fumer, tandis que les deux hommes s'ensevelissaient dans Ravity, Wood, les cartes et l'encyclopédie.
Ce n'est pas la peine de nous attendre, dit Dravot poliment.
Il est 4 heures à peu près maintenant. Nous partirons avant 6 heures si vous voulez dormir, et nous ne volerons pas de papier. Ne veillez pas sur nous. Nous sommes deux toqués, pas dangereux. Et si vous passez par là demain soir, nous vous dirons adieu.
Certainement, vous êtes deux fous, tous les deux, répondis-je.
On vous fera rebrousser à la frontière et on vous coupera le cou à l'instant où vous mettrez le pied en Afghanistan.
Avez-vous besoin d'argent ou d'une recommandation pour les provinces du Sud? Je peux vous mettre à même de trouver de l'ouvrage la semaine prochaine.
La semaine prochaine, nous travaillerons nous-mêmes et d'attaque.
Merci bien, dit Dravot.
Ce n'est pas si facile d'être roi que ça en a l'air. Quand nous aurons notre royaume et que tout fonctionnera, nous vous le ferons dire et vous viendrez nous aider à le gouverner.
C'est-il de Tokay qui ferait un contrat comme ceci, dit Carnehan, avec une nuance de discret orgueil, en me montrant une demi-feuille de papier à lettres graisseuses où on lisait ce qui suit. J'en pris copie sur le champ à titre de curiosité. Le présent contrat, ayant force entre toi et moi, prenant à témoin le nom de Dieu. Amen, etc., etc. 1. Que moi et toi déciderons cette affaire ensemble, à savoir d'être roi de Kafiristan. 2. Que toi et moi ne devrons point, pendant que nous déciderons cette affaire, regarder aucune boisson, ni aucune femme noire, blanche ou brune, de manière à ne pas nous embrouiller à cause de l'une ou de l'autre, ni que mal s'en suive. 3. Que nous devons nous conduire avec prudence et dignité, et que si l'un se trouve dans l'embarras, l'autre reste avec lui.
signé par toi et moi ce jour. Pitché Taliaferro Carnehan, Daniel Dravot, gentlemen tous deux sans profession.
Il n'y avait pas nécessité pour le dernier article, dit Carnehan en rougissant avec modestie.
Mais ça vous a l'œil plus correct. Vous savez ce que c'est que des loopers?
C'est ce que nous sommes encore, Dan, avant d'être sortis de l'Inde.
Eh bien, croyez-vous que nous aurions signé un contrat comme cela si nous n'avions pas pris la chose au sérieux?
Nous ne sommes privés des deux choses qui valent la peine de vivre.
Vous aurez vite fait votre deuil de vivre si vous persistez à tenter cette aventure idiote.
Ne mettez pas le feu au bureau, dis-je,
et partez avant 9 heures.
Je l'ai quitté, toujours absorbé dans la lecture des cartes, et qui prenait des notes au dos du contrat.
« Manquez pas de venir au soirée demain, » firent-ils comme je partais.
« Le soirée de Kumarsen est le grand égout humain, à 4 murs en carré, où viennent prendre ou laisser leur charge les files de chameaux et de chevaux qui arrivent du nord. On y trouve toutes les nationalités de l'Asie centrale et la plupart des gens de l'Inde propres. Balkh et Bokhara rencontrent là Bengale et Bombay et tâchent réciproquement de s'y tirer les canines. On peut y acheter des poneys, des turquoises, des chats persans, des moutons à queue charnue ou du musc dans ce serai de Kumarsen. On y attrape même plus d'une chose bizarre gratis. Dans l'après-midi, je descendis de ce côté afin de constater si mes amis tiendraient parole ou si je les trouverais vautrés et ivres-morts. Un molla vêtu de bouts de ruban et de loques s'avança vers moi d'un pas délibéré. Il agitait gravement un moulinet d'enfant en papier. Son serviteur, derrière lui, pliait sous le poids d'une botte remplie de jouets de terre. L'un et l'autre s'occupaient de charger 2 chameaux, et les hôtes du Surrey les regardaient faire en se tordant de rire. « Le mulla est fou, » me dit un marchand de chevaux. « Il va à Kaboul vendre des jouets à l'amir. Il se fera élever aux honneurs ou couper la tête. Il est arrivé ici ce matin et depuis lors n'a pas cessé d'agir comme un fou. Les simples sont sous la protection de Dieu, » bégaya en mauvais hindi, un ouzbeg aux joues plates. « Ils prédisent les choses de l'avenir. » Il aurait bien pu me prédire que ma kafila se ferait hacher par les chinoiri, presque à l'ombre de la passe, grogna un homme des Ousfaï, agent d'une maison de commerce du Rajputana, dont les marchandises étaient tombées par grande félonie entre les mains d'autres voleurs, à courte distance de la frontière, et que ces infortunes rendaient le plastron du bazar. « Olé, molla, d'où viens-tu et où vas-tu maintenant ?»«
De Roum suis-je venu, » cria le molla, en agitant son moulin en papier. « De Roum, poussé par le souffle de 100 000 diables, depuis l'autre côté de la mer. »«
Ô voleur, brigand, menteur, la bénédiction de Pirkan sur les porcs, les chiens et les parjures. Qui veut emmener le protégé de Dieu vers le nord afin de vendre à l'amir des charmes qui ne vieillissent point? Leurs chameaux ne souffriront pas, leurs fils ne tomberont pas malades, leurs femmes demeureront fidèles pendant leur absence à ceux qui me donneront place dans leur kafila. Qui m'aidera à chausser le roi des Rosses d'une pantoufle d'or à talons d'argent? La protection de Pirkan repose sur ses labeurs. Il rejeta en arrière les pans de son caban et pirouetta parmi les rangs de chevaux entravés.
Il part une kafila de Peshawar pour Kaboul dans 20 jours, Ousrout, dit le marchand de Ousfaï. Mes chameaux l'accompagnent. Viens donc avec nous et nous porte bonheur.
Je partirai tout de suite, cria le molla. Je partirai sur mes chameaux ailés et serai à Peshawar en 1 jour. Oh, Hazar Mirkan, hurla-t-il à son domestique, fais sortir les chameaux, mais que je monte sur le mien d'abord.
Il sauta sur le dos de la bête agenouillée, s'écria en se tournant vers moi. Viens aussi, Sahib, suis-nous un peu sur la route, et je te donnerai un charme, une amulette, qui te fera roi de Kafiristan.
À ce moment, la lumière se fit dans mon esprit. Je suivis les deux chameaux à la sortie du Surrey, jusqu'à la grande route où le mollah fit halte.
« Qu'en pensez-vous » dit-il en anglais.
« Carnehan ne sait pas leur patois. C'est pourquoi j'en ai fait mon domestique. C'est un domestique à la hauteur. Je n'ai pas battu le pays pendant 14 ans pour rien. »
C'était bien fait, hein, ce bout de causette tout à l'heure.
Nous nous collerons à une kafila, entre Peshawar et Jacques Dallac. Et de là, nous verrons à échanger nos chameaux pour des bourricots et à faire notre brèche en Kafiristan.
Des petits moulins pour la mire.
Ah, vain Dieu! Passez votre main sous les sacs et dites-moi ce que vous sentez.
Je tâtai la crosse d'un martini, d'un autre, puis d'un autre encore.
Il y en a 20, dit Dravotte, avec placidité.
20 et des munitions en conséquence sous les petits moulins et les poupées en terre.
Le ciel vous aide, si on vous découvre avec ces joujoux-là, dis-je.
Un martini chez les patanes.
Cela vaut son pesant d'argent.
1500 roupies de capital, tout ce qu'on a pu mendier, taper ou voler, placé là sur ces deux chameaux,
dit Dravot.
Nous ne nous ferons pas pincer. Nous passerons le Khyber avec une vraie kafila.
Qui toucherait un pauvre fou de Moula?
Avez-vous tout ce qu'il vous faut? Demandai-je, vaincu par la surprise.
Pas encore, mais ça viendra bientôt.
Donnez-nous un souvenir de votre obligeance, frère.
Vous m'avez rendu service hier et l'autre fois aussi à Maroire.
La moitié de mon royaume sera pour vous, comme dit la chanson.
Je détachai une petite boussole fétiche de ma chaîne de montre et la tendis au Moula.
Adieu, dit Dravot, en me tendant la main avec circonspection.
C'est notre dernière poignée de main à un Anglais pour bien des jours.
Serre-lui la main, Carnehan, cria-t-il, comme le second chameau me dépassait.
Carnehan se pencha et me serra la main.
Puis les chameaux s'effacèrent dans la poussière de la route, et je restai tout seul, à m'émerveiller. Mon œil n'aurait pu discerner le moindre accroc dans les déguisements. La scène du Surrey attestait leur perfection pour le jugement indigène. Une chance donc se présentait pour Carnehan et Dravot de cheminer à travers l'Afghanistan sans se trahir. Mais au-delà, ils trouveraient la mort, une mort affreuse et sûre.
10 jours plus tard, un indigène de mes amis qui me mandait les nouvelles les plus récentes du Peshawar terminait sa lettre en ces termes.
On a beaucoup ri par ici à cause d'un certain mollah qui est fou et s'en va, assure-t-il, vendre des colifichets et des babioles, qu'il appelle des charmes puissants, à Sa Majesté l'Amir de Bokhara. Il a traversé Peshawar et s'est joint à la seconde kafila d'été qui va à Kaboul.
Les marchands sont contents. Ils s'imaginent par superstition que des fous de la sorte portent bonne chance.
Les deux avaient donc passé la frontière. J'aurais prié pour eux, mais cette nuit-là, un vrai roi mourut en Europe, qui réclama un article nécrologique.
La roue du temps ramène toujours à nouveau les mêmes phases. L'été passa, l'hiver après lui, pour revenir et repasser encore. Le journal quotidien continuait, moi de même, et dans le courant du troisième été, advinrent une nuit chaude, une édition tardive et une attente énervée à propos de quelque chose qu'on devait télégraphier de l'autre côté du monde. Le tout exactement comme il était arrivé auparavant. Quelques grands hommes étaient morts au cours des 2 années qui venaient de s'écouler. Les écrous des machines jouaient avec plus de bruit, et quelques arbres, dans le jardin, avaient 2 pieds de plus. C'était toute la différence. Je passais dans l'atelier. La même scène se reproduisit, que j'ai déjà décrite. La tension nerveuse se faisait sentir plus intense que 2 ans auparavant, et la chaleur me pesait davantage. À 3 heures, je commandais, imprimé, et je m'en allais. Quand se traîna vers ma chaise ce qu'il restait d'un homme. Il était courbé en cercle, la tête sombrée dans les épaules, et il passait ses pieds l'un par-dessus l'autre comme un ours. Je distinguai à peine s'il marchait ou s'il rampait. Ce stropia loqueteux et geignant, il m'appelait par mon nom, en pleurant qu'il était de retour.
« Pouvez-vous me donner à boire ? » pleurnichait-il.
pour l'amour de Dieu, donnez-moi à boire. » Je retournai au bureau, précédant l'homme et ses gémissements de douleur. Je levai la lampe. « Vous ne me reconnaissez pas ?» souffla-t-il en se laissant tomber sur une chaise, et il tourna son visage ravagé surmonté d'une toison grise vers la lumière. Je le fixai avec persistance. Une fois auparavant, j'avais vu ses sourcils qui se joignaient à la racine du nez en bandes noires d'un pouce de largeur. Mais du diable, si j'aurais pu dire où ! « Je ne vous connais pas, » dis-je en lui passant le whisky. « Que puis-je faire pour vous ?» Il avala une gorgée d'alcool pur et frissonna, malgré l'étouffante chaleur. « Je suis revenu, » répétait-il, « et j'étais roi de Kaféristan, moi et Dravotte, roi couronné tous deux. C'est dans ce bureau que nous avions tout décidé. Vous étiez assis là, vous nous avez donné des livres. Je suis Pitché. Pitché, Taliafiero, Carnéan, et vous êtes resté ici tout le temps depuis. Bon Dieu !» J'étais plus que médiocrement surpris, et m'exprimai en conséquence. « C'est vrai, » dit Carnéan, avec un ricanement sec, tout en berçant ses pieds empaquetés de chiffons. « Vrai comme l'Évangile, nous étions rois, avec des couronnes sur la tête, moi et Dravotte, pauvre Dan. Ô pauvre Dan qui ne voulait jamais écouter même les prières.
Prenez du whisky, dis-je, et prenez votre temps. Dites-moi tout ce que vous pouvez vous rappeler depuis le commencement jusqu'à la fin. Vous avez passé la frontière sur vos chameaux, Dravotte, habillé en mela, fou, et vous, comme son domestique. Vous rappelez-vous cela ?
Je ne suis pas fou, pas encore, mais ça m'arrivera bientôt. Bien sûr que je me souviens. Continuez à me regarder, sans quoi j'ai peur que mes mots s'en aillent par morceaux. Continuez à me regarder dans les yeux, et ne dites pas un mot.
Je me penchai en avant et le fixai en plein visage, aussi ferme que je pus. Il laissa tomber sa main sur la table, et je la saisis par le poignet. Elle était tordue comme une serre d'oiseau. Et sur le dos, on voyait une cicatrice au contour déchiqueté, toute rouge et en forme d'as de carreau.
« Non, ne regardez pas, là. Regardez-moi, » dit Carnéan. « Ça, c'est après, mais pour l'amour de Dieu, ne me troublez pas. Nous sommes partis avec cette caravane, moi et Dravotte, faisant toutes sortes de farces pour amuser les gens que nous accompagnons. Dravotte nous faisait rire les soirs, à l'heure où tout le monde cuisait son dîner, et qu'est-ce qu'il faisait donc après ? Ils allumaient des petits feux, et les étincelles volaient dans la barbe de Dravotte, et en riaient tous, à se faire mourir. Des petits charbons rouges, ça faisait, qui volaient dans la grosse barbe rouge de Dravotte. Si drôle,
ses yeux qui ternaient bien. Il souriait d'un air simple. « Vous êtes allé jusqu'à Jacques d'Alac avec cette caravane, dis-je, à tout hasard, après avoir allumé ses feux ?»«
À Jacques d'Alac ?» Vous a-t-on détourné de pénétrer en Kaféristan ? Non, ni l'un ni l'autre. Qu'est-ce que vous racontez ? Nous avons bifurqué avant Jacques d'Alac, en entendant dire que les routes étaient bonnes, pas assez bonnes pour nos deux chameaux, le mien et celui de Dravotte, en quittant la caravane. Dravotte ôta tous ses habits, et les miens aussi, et dit qu'il fallait faire les païens parce que les kafirs ne permettent pas aux mahométans de leur adresser la parole. Alors on se déguisa, moitié l'un, moitié l'autre, et une tête comme celle de Daniel Dravotte, jamais je n'en ai vu de pareil, ni n'en reverrai jamais. Il brûla sa barbe à moitié, se pendit une peau de mouton sur l'épaule et se rasa la tête en petits dessins. Il me rasa la mienne aussi, et me fit mettre des frusques de chien pour me donner l'air d'un païen. Tout ça se passait dans un pays excessivement montagneux, et nos chameaux ne pouvaient plus avancer à cause des montagnes. C'est des montagnes très hautes, et toutes noires, et au retour, je les voyais se battre, comme des chèvres sauvages. Il y a des tas de chèvres en Kaféristan, et ces montagnes, elles ne se tiennent jamais tranquilles, tout comme des chèvres. Toujours à se battre et à vous empêcher de dormir la nuit.
Prenez d'autres whisky, dis-je, lentement. Qu'avez-vous fait, Daniel Dravot et vous, lorsque les chameaux ne purent plus avancer à cause des mauvaises routes qui menaient en Kafiristan?
Ce que nous avons fait, qui ça? Il y avait un individu nommé Pitchet, Talafiero, Carnéan avec Dravot. Faut-il vous parler de lui? Il est mort là-bas, dans la neige, vlan. Du haut du pont tomba ce vieux Pitchet, et il tournait et se tortillait en l'air comme un moulin à un penny pour vendre à la mire. Non, ça coûtait un penny et demi les trois, ces moulins, où je me trompe et j'ai bien du chagrin. Et alors les chameaux plus bons à rien, et Pitchet dit à Dravot, « Pour l'amour de Dieu, tirons-nous d'ici avant qu'on nous coupe la tête. » Mais là-dessus, ils tuèrent les chameaux dans la montagne, car ils n'avaient rien que je sache à manger. Mais d'abord, ils enlevèrent les caisses de fusils et cartouches. Puis voilà deux hommes qui s'amènent, conduisant quatre mules. Dravot saute debout et se met à danser devant eux en chantant « Vends-moi tes quatre mules !» Le premier homme dit « Si tu es assez riche pour payer, tu es assez riche pour voler. » Mais avant qu'il porte seulement la main à son couteau, Dravot lui casse le cou en travers de son genou, et l'autre se sauve, de sorte que Carnéan charge les mules avec les fusils qu'on avait descendus des chameaux, et tous deux nous piquons de l'avant dans ces pays du froid de chien, où il n'y a jamais de route plus large que le dos de la main. »
Il s'arrêta un moment, tandis que je lui demandais s'il se rappelait la nature du pays par lequel il avait cheminé.
« Je vous dis tout aussi droit que je le peux, mais la tête n'est pas aussi bonne que tout ça. Ils ont enfoncé des clous dedans pour que j'entende mieux comment Dravot mourut. Le pays était montagneux, les mules rétives, et les habitants dispersés, solitaires. On allait montant, descendant, et l'autre individu, Carnéan, suppliait Dravot de ne pas chanter ni siffler si fort, crainte de détacher les terribles avalanches. Mais Dravot disait que si un roi ne pouvait pas chanter, ça ne valait pas la peine d'être roi, et ne fit attention à rien pendant 10 jours de glace. Nous arrivâmes à une grande vallée unie au milieu des montagnes, et les mules étaient à moitié mortes, et on les tua, n'ayant rien que je sache à leur donner, ni à manger nous-mêmes. Puis nous nous assîmes sur les caisses, et nous jouions à pair et impair avec les cartouches qui avaient roulé à terre. Tout à coup, 10 hommes avec des arcs et des flèches descendent la vallée en courant et en faisant la chasse à 20 hommes, armés d'eux-mêmes, et le potin était énorme. Ils étaient blonds, plus blonds que vous et moi, les cheveux jaunes et très bien bâtis. Dravot dit en déballant les fusils, « Voilà le commencement de la besogne, nous prenons parti pour les 10 ». Là-dessus, il tire 2 coups sur les 20 hommes et en dégringole 1 à 200 mètres du rocher où il se tenait. Les autres commencèrent à détaler, mais Carnéan et Dravot s'assoient sur les caisses et se mettent à les poivrer à toute distance, du haut en bas de la vallée. Après, nous nous dirigeons vers les 10 hommes qui avaient traversé aussi la neige en courant, et ils nous décochent une coquine de petites flèches. Dravot tire en l'air, et ils tombent tous à plat ventre. Alors ils marchent dessus en leur donnant du talon de botte, et après les relèvent et distribuent des poignées de main à la ronde pour s'en faire des amis. Ils les appellent et leur donnent les caisses à porter avec de grands gestes, tout comme s'il était roi déjà. Ils le mènent avec ses caisses de l'autre côté de la vallée, en haut d'une colline avec un bois de pin au sommet, où il y avait une 12 de grandes idoles de pierre. Dravot marche à la plus grande, un gars qu'il appelle Imbra pose un fusil et une cartouche à ses pieds, lui frotte le nez respectueusement contre le sien, lui passe la main sur la tête et lui fait des salamalecs. Il se retourne vers les hommes, secoue la tête et dit « Ça va bien, j'en suis aussi, et tous ces vieux casse-noisettes sont mes copains. » Alors il ouvre la bouche en montrant son gosier du doigt, et quand le premier homme lui apporte à manger, il dit « Non !» Et quand le deuxième homme lui apporte à manger, il dit « Non !» Mais quand un des vieux prêtres et le chef du village lui apporte à manger, il dit « Oui !» très fier, et mange sans se presser. Voilà comme nous sommes arrivés à notre premier village, sans difficulté, tout comme si nous tombions du ciel. Oui, mais nous sommes tombés d'un de ces derniers ponts de corde, et on ne peut pas s'attendre à voir un homme vivre beaucoup après ça.
Prenez d'autres whisky et continuez, dis-je. Ça, c'était votre premier village. Comment êtes-vous devenu roi?
Moi? Je n'ai jamais été roi. C'est Dravot qui était roi. Et ça faisait un beau gars. Couronne d'or en tête et le reste. Lui et l'autre individu demeurèrent dans ce village, et tous les matins Dravot s'asseyait à côté du vieil Imbra, tandis que les gens venaient lui faire pouja. C'était l'ordre de Dravot. Puis une troupe d'hommes entre dans la vallée, et Carnéan avec Dravot les descendent à coups de fusil autant qu'ils sachent où ils en sont. Montent sur l'autre versant et trouvent un autre village, pareil au premier, où tout le monde se jette à plat ventre. Et Dravot dit « Voyons, qu'est-ce qui ne va pas entre nos deux villages ?» Les gens alors lui montrent une femme blanche, comme vous et moi, qu'on avait enlevée. Et Dravot la ramène au premier village et compte les morts. 8 qu'il en avait. Pour chaque mort, Dravot verse un peu de lait par terre, remue le bras comme un moulinet, et « C'est très bien !» qu'il dit. Ensuite, lui et Carnéan prennent le grand chef de chaque village, chacun sous le bras, descendent avec dans la vallée, et leur montrent à tirer une ligne avec un fer de lance tout le long de la vallée, en leur donnant à chacun une motte d'herbe prise des deux côtés de la ligne. Alors tous les gens descendent, gueulant comme le diable et son train, et Dravot dit « Allez bêcher la terre, croître et multiplier !» Ce qu'ils firent, quoiqu'ils ne comprenaient pas. Alors nous demandons les noms des choses dans leur baragouin, l'eau, le pain, le feu, les idoles et le reste. Et Dravot amène le prêtre de chaque village devant l'idole, et lui dit de rester là pour juger les gens, et que si ça ne marchait pas, on lui ficherait un coup de fusil. La semaine après, ils étaient tous à retourner la terre dans la vallée, tranquilles comme des abeilles et plus jolis à voir. Les prêtres écoutaient les réclamations et rapportaient à Dravot par geste de quoi il s'agissait. « Voilà que ça commence, » dit Dravot. « Ils nous prennent pour des dieux. » Lui et Carnéan choisissent 20 gaillards solides et leur apprennent à charger un fusil, à doubler par le flanc, à marcher aligné. Ça leur faisait plaisir et ils en voyaient vite la farce. Puis il prend sa pipe et sa blague, laisse un homme dans un village, un homme dans l'autre, et nous partons, histoire de voir ce qu'il y avait à faire dans la prochaine vallée. C'était tout rocher par là, avec un petit village. Carnéan dit « Envoyons les planter dans l'autre vallée. » Il les y emmène, comme il dit, et leur donne de la terre, qui n'appartenait à personne avant. Ils n'étaient pas riches, et on leur fit cadeau d'un chevreau, avant de les faire entrer dans le nouveau royaume. C'était pour frapper les autres. Ils s'installèrent tout tranquillement, et Carnéan retourna trouver Dravot, qui avait poussé dans une autre vallée, rien que de la neige, de la glace et des montagnes énormes. Il n'y avait personne par là, et l'armée se prend de peur, de sorte que Dravot en tue un, et continue de l'avant jusqu'à ce qu'il trouve quelques habitants dans un village, auquel l'armée fit comprendre que, s'ils ne veulent pas être massacrés, ils feront mieux de ne pas tirer leurs petits fusils à pierre, car ils avaient des fusils à pierre. On se met bien avec le prêtre, et je reste là tout seul, avec deux de l'armée, pour apprendre l'exercice aux hommes. Et alors arrive un grand chef du tonnerre de Dieu, à travers la neige, avec des tambours et des cornes qui faisaient du train, rapport qu'il avait entendu parler d'un nouveau dieu qui se baladait par là. Carnéan vise dans le tas à un demi-mille à travers la neige et en dégringole un. Alors il envoie dire au chef que s'il ne veut pas se faire tuer, il faut qu'il vienne me donner une poignée de main et laisse les armes derrière. Le chef arrive le premier, tout seul. Carnéan lui serre la main et fait le moulinet avec ses bras comme Dravotte. Et le chef n'était pas à moitié étonné et me tâtait les sourcils. Puis Carnéan marche tout seul au chef et lui demande par signe s'il a un ennemi qu'il hait. « J'en ai un, » dit le chef. En attendant ça, Carnéan lui rafle le dessus du panier de ses hommes et leur fait montrer la manœuvre par les deux de l'armée. Et au bout de ces deux semaines, les hommes se débrouillent à peu près comme des volontaires. Alors ils marchent avec le chef vers un grand coquin de plateau sur le haut d'une montagne, et les hommes du chef donnent l'assaut à un village, et le prennent avec l'aide de nos trois martinis qui tapaient dans le tas. Ça fait que nous prîmes ce village là aussi. Et je donne au chef un morceau de drap de ma veste en disant « Occupe jusqu'à mon retour ». À la mode biblique, histoire de l'y faire penser, lorsque l'armée et moi nous étions éloignés de 1800 mètres, je plante une balle dans la neige, à deux pas de lui, et tous les gens tombent à plat ventre. Puis j'envoyais une lettre à Dravotte. Du diable si je savais où le prendre, sur terre ou sur mer. Au risque de rompre le fil des idées de la loque humaine que j'avais devant moi, j'interrogeais. Comment pouvait-on écrire une lettre là-haut, si loin? La lettre? Oh, la lettre! Continuez à me regarder entre les yeux, s'il vous plaît. C'était une lettre en nœud de ficelle. Un mendiant aveugle nous avait montré le truc autrefois en Pendjab. Je me souvins qu'une fois était venu au bureau un aveugle porteur d'une baguette noueuse et d'une ficelle qui l'enroulait la baguette selon quelques chiffres de son invention. Après un laps de plusieurs heures ou de plusieurs journées, il pouvait répéter la phrase ainsi entortillée. Il avait réduit l'alphabet à 11 sons élémentaires. Et il essaya de m'enseigner sa méthode, mais sans succès. « J'envoyais la lettre à Dravotte, » dit Carnéan, « pour lui dire de revenir, parce que ce royaume devenait trop grand pour que je le manie tout seul. Puis je m'en allais du côté de la première vallée, afin de voir comment les prêtres s'en tiraient. On appelait le village que nous venions de prendre, d'accord avec le chef, Bashkai, et le premier que nous avons pris, Ereb. Les prêtres d'Ereb se débrouillaient bien. Mais ils avaient un tas de disputes à propos de terre, à me soumettre, et des hommes d'un autre village avaient tiré des flèches sur le leur la nuit. Je sortis à la recherche de ce village et lui envoyai 5 balles à 1000 mètres. Ça faisait le compte de cartouches que je me souciais de brûler. Ensuite, je me mis à attendre Dravotte, absent 2 ou 3 mois, et je fis tenir mon peuple tranquille. Un matin, j'entends un raffut de tambour et de cornes, à croire que c'était le diable en personne. Et Daniel Dravotte descend la colline avec son armée, des centaines d'hommes qui marchaient derrière, et, ce qu'il y avait de plus épatant, une grande couronne d'or sur la tête. « Vain Dieu, Carnéan, » dit Daniel, « ça devient une affaire énorme. Voilà que nous tenons tout le pays à présent, au moins tout ce qui en vaut la peine. » « Je suis le fils d'Alexandre et de la reine Sémiramis. Toi, tu es mon frère cadet et Dieu par-dessus le marché. C'est la plus grosse ouvrage qu'on ait jamais faite. Il y a 6 semaines qu'on marche et qu'on en découd, l'armée et moi, et le moindre petit village à 50 lieues à la ronde s'est rendu avec des réjouissances. Le mieux, c'est que j'ai la clé de toute la comédie, comme tu vas voir, et une couronne pour toi. J'en ai fait taire 2 dans un endroit appelé Chou, où on trouve l'or dans le roc. » Comme le suif dans la viande. L'or, je l'ai vu. On fait aussi sauter des turquoises du bout du pied dans la roche. Il y a des grenats plein le lit de la rivière. Et voilà un bloc d'ambre qu'un homme a porté. Appelle tous les prêtres. Et tiens, prends ta couronne. Un des hommes ouvre un sac de crin et je me mets la couronne sur la tête. Elle était petite et trop lourde, mais je la portais pour l'honneur. En or martelé qu'elle était, et elle pesait 5 livres. Un vrai cerceau de baril. Pitchet, dit Dravotte. Nous en avons assez de nous battre. C'est la maçonnerie, le truc qui m'a si bien aidé.
et il fait avancer le même chef que j'avais laissé à Bashkai, Billy Fish, comme nous l'avons nommé plus tard, parce qu'il ressemblait tant à Billy Fish qui conduisait la grande locomotive réservoir à Mac sur la Bolane, dans les étangs.
« Donne-lui une poignée de main, » dit Dravot.
Je lui tends la main et pense tomber de surprise quand Billy Fish me donne l'attouchement maçonnique. Je ne dis rien, mais j'essaie l'attouchement des compagnons. Il répond bien et j'essaie l'attouchement des maîtres. Mais là, plus personne. « C'est un compagnon, » dit Jadan. « C'est-il le mot ?»« Il le sait, » dit Dan, et tous les prêtres d'eux-mêmes. « C'est un miracle. » Les chefs et les prêtres savent manigancer une loge à peu près à notre manière, et ils ont gravé les insignes sur le roc. Mais ils ne connaissent pas le troisième degré, et ils viennent apprendre. C'est vrai, comme il y a un dieu. Il y a autant que je savais que les Afghans connaissent l'initiation des compagnons, mais ceci est un miracle. Me voici dieu et grand maître de l'ordre, et je vais ouvrir une loge du tiers degré. Nous initierons les grands prêtres et les chefs des villages. C'est contre toutes les lois de l'ordre que je dis, d'ouvrir une loge sans brevet de personne. Et nous n'avons jamais tenu de grade dans une loge auparavant. C'est à mettre au coup de politique, au contraire, dit Dravot. Cela revient à mener le pays aussi facilement qu'un cabriolet à quatre roues à la descente d'une côte. Du reste, il n'y a pas de temps à perdre en discussion, ou ils se mettront contre nous. J'ai 40 chefs sur mes talons. Initiés, ils seront. Et promus de même d'après leur mérite. Cantonne ces hommes dans les villages et occupe-toi d'organiser une loge tant bien que mal. Le temple d'Imbra fera l'affaire comme sale. Il faut que les femmes fabriquent des tabliers. Montre-le leur. Je tiens ma levée de chef ce soir. Et la loge demain. Je n'en revenais pas, mais je n'étais pas si bête que de ne pas voir quel coup d'épaule cette aventure de maçonnerie nous donnait. Je montrai aux familles des prêtres à confectionner des tabliers d'après les grades, mais pour le tablier de Dravot, la bordure bleue et les insignes furent brodés en turquoise sur cuir blanc au lieu de drap. Nous plaçâmes une grosse pierre dans le temple pour servir de siège au maître, et des pierres plus petites pour les officiers. Je fis peindre le pavé noir de carré blanc et me donnai du mal pour que tout fût correct au possible. Pendant la levée que nous tîmes, ce soir-là, sur le flanc de la colline, parmi de grands feux, Dravot déclara que lui et moi étions Dieu, fils d'Alexandre, passé grand maître de l'ordre, et venu faire du Kafiristan un pays où chacun devait manger en paix, boire en repos et surtout nous obéir. Alors les chefs avancent pour nous serrer la main, et aller voir si barbu, si blanc et si blond, c'était à croire qu'on la serrait à de vieux copains. Nous les appelions d'après leur ressemblance à des hommes qu'on avait connus dans l'Inde. Billy Fish, Holly Dilworth, Picky Kergan. Il était commissaire du bazar du temps où j'habitais Meaux, et ainsi de suite. Le plus épatant de tout, ce fut à la loge, la nuit suivante. Un des vieux prêtres ne nous quittait pas de l'œil, et je ne me sentais pas à l'aise. Sachant qu'il nous faudrait nous tirer des cérémonies à la blague et ne sachant pas ce que les autres en pouvaient savoir. Le vieux prêtre était un étranger venu d'au-delà du village de Bashkai. Au moment où Dravot mit le tablier de maître que les filles lui avaient brodé, le prêtre se mit à brailler et à hurler en essayant de retourner la pierre où Dravot était assis. C'est tout fichu à présent que je dis. Voilà ce que c'est de se mêler de franc-maçonnerie sans brevet. Dravot ne sourcilla pas, même quand les 10 prêtres empoignent et renversent le siège du grand maître. C'était comme qui dirait la pierre d'Imbra. Le prêtre se met à en frotter la base pour détacher la terre noire, et le voilà qui montre aux autres prêtres la marque du maître, la même que sur le tablier de Dravot, gravée sur la pierre. Les prêtres du temple d'Imbra ne savaient même pas qu'elle était là. Le vieux tombe à plat aux pieds de Dravot et les baise. « Veine encore !» me crie Dravot, d'un bout à l'autre de la loge. Ils disent que c'est la marque perdue dont personne ne savait le pourquoi. Nous sommes plus que saufs maintenant. Alors il laisse tomber la crosse de son fusil en guise de hallebarde et dit « En vertu de l'autorité à moi conférée par ma droite que voici et le secours de Pitcher, je me déclare grand maître de toute la franc-maçonnerie du Kafiristan, en cette loge mère de la contrée, et de pair avec Pitcher, roi du Kafiristan. Là-dessus, il met sa couronne, je mets la mienne, je faisais fonction de vénérable, et nous ouvrons la loge en due forme. C'est un miracle épatant. Les prêtres passent les deux premiers degrés presque sans rien dire, comme si la mémoire leur revenait. Après ça, Pitcher et Dravot élevèrent d'un rang les plus dignes, grand prêtre ou chef de village éloigné. Billy Fish fut le premier, et je vous prie de croire qu'il en tremblait de peur. Ça ne se passait pas du tout dans les formes ordinaires, mais cela servait notre idée. Nous n'en avons pas promu plus de 10 parmi les gros bonnets, ce jour-là, parce que nous ne voulions pas rendre le degré commun. Et c'est à qui crierait pour se faire initier. Dans 6 mois, dit Dravot, nous tiendrons une autre assemblée, et nous verrons comment vous travaillez. Puis il les interroge sur leur village et apprend qu'ils passaient leur vie à se battre les uns avec les autres, et qu'ils en avaient plein le dos à la fin. Autrement, c'était avec les musulmans qu'ils se battaient. Cela, vous pourrez vous battre avec, s'ils entrent dans notre pays, dit Dravot. Désignez 1 homme sur 10 par tribu comme garde de frontière, et envoyez-en 200 à la fois dans cette vallée pour se faire dresser. On ne fusillera ni ne saignera plus personne désormais. Si vous vous comportez bien, et je sais que vous ne me tricherez pas, parce que vous êtes des Blancs, des fils d'Alexandre, non pas de vils musulmans à peau noire. Vous êtes mon peuple à moi, dit-il, et il finit en anglais. Dieu me donne si je ne fais pas une chouette nation de vous, ou que je claque à la tâche. Je ne peux pas vous dire tout ce que nous avons fait les 6 mois qui suivirent, parce que Dravot boutiquait un tas de choses dont je ne voyais pas la raison. Et il apprit leur jargon comme jamais je ne pus l'apprendre. Ma besogne consistait à veiller au labour, à visiter de temps en temps les autres villages avec l'armée pour voir ce qu'ils faisaient, et alors montrer à jeter des ponts de corde sur les sacrés ravins qui hachent le pays. Dravot était très gentil pour moi, mais quand il marchait de long en large dans le bois de pin, tirant à 2 points cette barbe rouge sang qu'il avait, je savais bien qu'il pensait à des projets où je ne pouvais pas lui donner d'avis, et je me contentais d'attendre les ordres. Mais Dravot ne me manquait jamais de respect devant le peuple. Ils avaient peur de moi et de l'armée, mais ils aimaient Dan. Il était lié d'amitié avec les prêtres et les chefs. Mais que le premier venu arrivât de l'autre côté de la montagne, avec une réclamation à porter, Dravot l'écoutait jusqu'au bout, réunissait 4 prêtres et disait ce qu'il fallait faire. Il envoyait chercher Billy, Fish, à Bascaï, Piki, Kergan à Chou, et un vieux chef que nous appelions Kafuzeloum. Ça ressemblait assez à son vrai nom. Puis il tenait conseil avec eux, en cas de bataille entre petits villages. C'était son conseil de guerre, et les 4 prêtres de Bashkai, Chou, Kawak et Madora, formaient son conseil privé. Eux tous, ils m'envoyèrent avec 40 hommes et 20 fusils, plus 60 porteurs de turquoise, dans le pays de Gorban, pour acheter des fusils Martini, fabriqués à la main, et qui sortent des arsenaux de l'Amir à Kaboul, à un des régiments erratistes de l'Amir, des gens qui auraient vendu les dents de leurs mâchoires pour des turquoises. Je restai 1 mois à Gorand. Je laissai au gouverneur le dessus de mes paniers pour qu'il se taise, et graissait la patte au colonel du régiment. En fin de compte, nous emportâmes plus de 100 martinis faits à la main, 100 bons Gisèle de Coat, qui portent à 600 mètres, et 40 charges de mauvaises munitions pour les fusils. Je rentrai avec tout et en fis la distribution parmi les hommes que les chefs m'envoyaient adresser. Dravot était trop affairé pour s'occuper de ces choses, mais l'ancienne armée que nous avions formée m'aida, et je mis sur pied 500 hommes, bons manœuvriers, et 200 capables de porter à peu près les armes. jusqu'à ces pétoirs fabriqués à la main et aux tire-bouchons, qui leur semblaient des miracles. Dravot parlait beaucoup de poudreries et d'arsenaux, tout en marchant de long en large dans le bois de pin, aux approches de l'hiver. Ce n'est pas une nation que je veux faire, disait-il, c'est un empire. Ces hommes-là ne sont pas des Noirs, mais des Anglais. Regarde leurs yeux, leurs bouches, vois la manière dont ils se tiennent debout. Ils se servent de chaises dans leurs maisons. Ce sont les tribus perdues ou quelque chose de la sorte, et ils sont devenus Anglais. Je ferai un recensement au printemps, si les prêtres ne prennent pas peur. Il doit y avoir 2 bons millions d'habitants dans ces montagnes. Les villages sont pleins de petits-enfants. 2 250 000 combattants, et tous anglais. Ils n'ont besoin que de fusils et un peu d'exercice. 250 000 hommes, tout prêts à entamer les Russes de flanc le jour où ils s'en prendront à l'Inde. « Pitchet, mon vieux, disait-il, mâchant sa barbe à gros morceaux, nous serons empereurs de la terre, dit ce roi. Je lui demanderai de m'envoyer 12 Anglais de choix, 12 que je connais pour nous aider à gouverner un brin. Il y a Macrae, le sergent retraité à Ségoli. Je lui dois plus d'un bon dîner et une paire de culottes à sa femme. Il y a Donquin, le geôlier de la prison à Tougon. Des centaines d'autres sur qui je mettrais la main tout de suite si j'étais dans l'Inde. Le fils roi fera ça pour moi. J'enverrai quelqu'un au printemps chercher ces hommes, et je demanderai par écrit ma dispense à la grande loge pour ce que j'ai fait comme grand maître. Il me faut cela, cela et les Snyders qu'on reformera quand on donnera le Martini aux troupes noires des Indes. Ils seront usés, mais ils feront l'affaire pour la guerre par ici. 12 Anglais, 100 000 Snyders passés à travers le pays de l'Amir en petit convoi, 20 000 par an, ça me suffirait, et nous serions un empire. Une fois tous dégrossis, je remettrai ma couronne, et celle-là même que je portais aujourd'hui, je la remettrai, un genou en terre, à la reine Victoria. Et elle dirait, « Levez-vous, sœur Daniel Dravot. » Oh, c'est énorme, je te le dis. Mais il y a tout à faire partout, à Bashka et Kawak, Chou et ailleurs. Quoi donc, répondis-je. Il ne viendra plus d'hommes se faire instruire cet automne. Regarde ces gros nuages noirs. Ils amènent la neige. Ce n'est pas ça, dit Daniel en posant sa main très fort sur mon épaule. Je ne voudrais pas dire un mot contre toi, car aucun homme en vie ne m'aurait suivi ni fait ce que je suis, aussi bien que toi. Tu es un général en chef de premier ordre, le peuple le sait, mais c'est un grand pays, et en définitive, tu ne peux pas m'aider, Pitchet, de la manière qu'il faudrait. Va demander à tes sacrés prêtres, alors, dis-je, et je regrettai tout de suite d'avoir dit cela. Mais ça me blessait au vif d'entendre Daniel le prendre de si haut avec moi, qui avait instruit tous les hommes et fait tout ce qu'il m'avait dit. Ne nous disputons pas, Pitchet, dit Daniel, sans jurer. Tu es roi aussi, la moitié de ce royaume est à toi. Mais ne vois-tu pas, Pitchet, qu'il y faut à présent des gens plus forts que nous, 3 ou 4 qu'on pourrait placer par-ci par-là dans le pays, en qualité de représentants. C'est un diable de grand état. Je ne sais pas toujours ce qu'il a à propos de faire. Je n'ai pas le temps pour tout ce que je voudrais. Voilà l'hiver qui s'amène, et le reste. Il se fourra dans la bouche la moitié de sa barbe. Et il paraissait aussi rouge que l'or de sa couronne. Je dis, « Je suis fâché, Daniel. J'ai fait ce que j'ai pu. J'ai instruit les hommes et montré aux gens un maître en meule leur avoine. J'ai aussi apporté ces camelottes de fusils du Corband. Mais je vois où tu veux en venir. Les rois sont toujours embêtés par des idées comme ça. Il y a encore autre chose, dit Dravot, en marchant de long en large. L'hiver arrive. Le peuple ne nous donnera guère de mal à présent. Et même en ce cas, nous ne pourrions pas bouger. Il me faut une femme.
Pour l'amour de Dieu, laisse les femmes tranquilles, que je dis. Nous avons tous les deux les mains comblées de besogne. Quoique pour ma part, je ne sois qu'un imbécile. Rappelle-toi le contrat, et ne t'empêtre pas de jupons. Le contrat n'avait force que jusqu'au moment où nous serions rois. Et rois, nous avons régné voilà plusieurs mois passés, dit Dravot en soupesant sa couronne. Va-t'en chercher femme, toi aussi, Pitchet, une jolie fille, découplée, bien en chair, qui te tienne chaud l'hiver. Elles sont plus jolies que les filles d'Angleterre, et nous pouvons choisir. Ne me tente pas, je lui dis, je ne veux pas avoir affaire à une femme avant que nous soyons un sacré brin plus d'aplomb que pour le moment. J'ai travaillé comme deux, et toi comme un quatre. Reposons-nous un peu, tâchons de nous faire fournir de meilleurs tabacs en pays afghan et d'introduire quelque chose à boire. Mais pas de femme. Qui parle de femme, dit Dravot. Il m'en faut qu'une. Une reine qui engendre au roi un fils de roi. Une reine issue de la tribu la plus forte et qui en fasse tes frères de sang. Qui donne à ton flanc et te répète tout ce que le peuple pense autant de toi que de ses propres affaires. Voilà ce qu'il me faut.
Te rappelles-tu cette Bengalie que j'entretenais à Mogul Serai quand j'étais ouvrier poseur? Elle m'a rendu service, pour sûr. Elle m'a appris la langue, et une ou deux autres choses. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Elle a fichu le camp avec le kid Magar, du chef de guerre, et un demi-mois de ma paye. Puis un beau jour, la voilà qui s'amène en plein station de Dadour, à la traîne derrière un métis. Et l'impudence de m'appeler son mari devant tous les mécaniciens, dans le hangar aux machines.
Fini tout ça, dit Dravot. Ces femmes d'ici sont plus blanches que toi et moi, et j'aurai une reine pour les mois d'hiver.
Je te le demande pour la dernière fois, Dan, ne fais pas ça. Il n'en viendra que du mal. La Bible défend aux rois de perdre leur force avec les femmes, surtout quand ils ont à se tirer d'affaires avec un royaume tout neuf.
Pour la dernière fois, je réponds. Ce sera comme je veux, dit Dravot. Et il avait l'air d'un grand diable rouge, comme s'il s'en allait à travers les pins. Le soleil bat tapé de côté sur la couronne, et toutes deux flamboyaient comme des braises. Ça n'était pas si facile de prendre femme que Dan le croyait.
Il exposa la chose au conseil, et personne ne répondit jusqu'au moment où Billy Fish dit qu'il ferait bien de demander aux filles.
Dravot se mit à sacrer à la ronde. « Qu'y a-t-il contre moi ? » qu'il cria, debout près de l'idole Imra. « Suis-je un chien ou pas assez un homme pour vos donzelles? N'ai-je point étendu l'ombre de ma main sur cette terre? Qui a repoussé le dernier raid afghan ?»
C'était moi, la vérité, mais Daniel était trop en colère pour s'en souvenir.
« Qui a acheté vos fusils, réparé les ponts? Qui est le grand maître du signe gravé sur la pierre ?» Et il cogna du poing sur le bloc où il siégeait d'ordinaire, en loge comme au conseil. Les deux se tenaient de même manière toujours. Billy Fish ne dit rien, les autres non plus.
« Ne t'emballe pas, Dan, que je dis, et demande aux filles. C'est comme cela qu'on fait chez nous, et ces gars-là sont tout à fait anglais. »«
Le mariage du roi est affaire d'État, dit Dan. Dans sa colère blanche, il se rendait compte, il faut croire, qu'il allait contre son intérêt, mieux entendu. Il sortit à grands pas de la salle du conseil, et les autres restaient immobiles, les yeux fichés à terre.
« Billy Fish, dis-je au chef de Bashkai, quelle difficulté se présente donc ici. Réponds franchement comme un franc ami. »«
Vous le savez, dit Billy Fish, que vous apprendrez un homme à vous qui savez tout. Comment les filles des hommes s'uniraient-elles à des dieux ou à des diables? Ça n'est pas convenable. » »«
Je me rappelais quelque chose de la sorte dans la Bible.
Mais du moment qu'il nous prenait encore pour des dieux depuis le temps qu'il nous connaissait, ce n'était pas à moi de les détromper.
Un dieu peut tout, dis-je. Si le roi aime une femme, il ne permettra point qu'elle meure.
Il le faudra, dit Billy Fish. Il y a toutes sortes de dieux et de diables dans ces montagnes, et de temps en temps une fille en épouse un, et on ne la revoit plus. En outre, vous connaissez tous deux la marque gravée sur la pierre. Les dieux seuls connaissent cela. Nous vous croyons hommes jusqu'à ce que vous ayez montré le signe du maître. »
Toute cette nuit-là, on entendit souffler dans des cornes et une voix de femme qui pleurait à se faire mourir. Cela venait d'un petit temple noir à mi-chemin de la colline. Un des prêtres nous dit qu'on l'a préparé à devenir la femme du roi.
« Pas de ces blagues, dit Dan. Je ne veux pas me mêler de vos coutumes, mais c'est moi qui choisirai ma femme. »«
Elle a peur un peu, dit le prêtre. » Elle croit qu'elle va mourir, et on lui redonne du cœur là-bas dans le temps.
« Donnez-lui du cœur en douceur, alors, dit Dravot,
ou je vous en donnerai à coups de crosse de façon à vous ôter l'envie qu'on vous en donne jamais plus. » Il se passa la langue sur les lèvres et resta la moitié de la nuit à se promener de haut en bas, en pensant à la femme qu'il aurait au matin. Je ne me sentais guère à l'aise, car je savais que des histoires de femmes en pays étranger, fût-on roi 20 fois, ça ne pouvait qu'être risqué. Je me levai de très bonne heure le matin. Gravotte dormait encore, et je vis les prêtres qui chuchotaient entre eux, les chefs qui se parlaient bas aussi, et tous m'observaient du coin de l'œil. « Qu'est-ce qui chauffe, fiche ? » dis-je au chef de Bashkai. Il était superbe à voir avec ses habits de fourrure. « Je ne sais pas au juste, dit-il, mais si vous pouvez amener le roi à renoncer à toutes ces histoires de mariage, vous nous rendrez un fier service à lui et à moi, comme à vous. »
« Ça, je le crois, dis-je. Mais pour sûr, Billy, tu sais aussi bien que moi, toi qui t'es battu contre et pour nous, que le roi et moi ne sommes rien de plus que deux des plus rudes hommes que le Seigneur ait jamais fait. Rien de plus, je t'assure. »«
Possible, dit Billy Fish, et pourtant j'en serais fâché. » Il laissa tomber sa tête sur son grand manteau fourré pendant une minute et réfléchit. « Roi, dit-il, homme, dieu ou diable, compte sur moi dès ce jour. J'ai 20 hommes avec moi qui me suivront. Nous irons à Bashkai, jusqu'au grain passé. Il était tombé un peu de cette neige cette nuit et tout était blanc, sauf les gros nuages huileux qui se suivaient l'un après l'autre dans le vent du nord. Dravotte parut, couronnant en tête, battant des bras et frappant des pieds, l'air plus content qu'un dieu.
« Pour la dernière fois, Dan, lâche ton idée, je lui dis tout bas. Voilà Billy Fish qui dit qu'il y aura du grabuge. »«
Parmi mon peuple, dit Dravotte.
Je voudrais voir, Pitcher. Tu es fou de ne pas prendre une femme aussi. Où est-elle ? Dit-il d'une voix comme un âne qui braie. « Rassemblement pour les chefs et prêtres, et que l'empereur voie si son épouse lui convient. »
Il n'y avait besoin de rassembler personne. Ils étaient tous là, appuyés sur leurs fusils et leurs lances, autour de la clairière, au milieu du bois de pin. Une députation de prêtres descendit au petit temple chercher la jeune fille, et les cornes soufflaient à réveiller les morts. Billy Fish, sans en avoir l'air, se rapprocha de Daniel le plus possible. Et derrière lui se tenaient ces 20 hommes avec leurs fusils à bassinet. Pas un moins haut que 6 pieds. J'étais à côté de Dravotte avec, derrière moi, 20 hommes de l'armée régulière. Arrive la femme, un beau brin de fille, couverte d'argent et de turquoise, mais pâle comme la mort, et qui, à chaque instant, se retournait vers les prêtres.
« Elle fera l'affaire, dit Dan, en la regardant de la tête aux pieds. « Qu'y a-t-il donc, fillette, pour avoir peur ? Viens m'embrasser. »
Il lui passe le bras autour de la taille. Elle ferme les yeux, fait un petit cri, et voilà sa figure qui tombe, de côté, dans la barbe rouge de Dravotte. « La garce m'a mordu, qu'il dit, en portant la main à son cou, et pour sûr qu'il la retira rouge de sang. » Billy Fish et deux de ses fusiliers empoignent Dan par les épaules et le tirent en arrière parmi les hommes de Bashkai, tandis que les prêtres hurlent dans leur baragouin. « Ni Dieu, ni diable, un homme !» J'étais abasourdi. Un prêtre me porta un coin de pointe de face, et en arrière, l'armée se mit à faire feu sur les hommes de Bashkai. « bon Dieu, dit Dan, qu'est-ce que ça veut dire ?»« Rentrons, allons-nous-en, crie Billy Fish. Ruine et révolte, voilà ce que c'est. » « Gagnons Bashkai, si l'on peut. » J'essayais de donner des ordres à mes hommes, ceux de l'aimée régulière. Mais ça ne servait à rien, de sorte que je fis feu dans le tas avec un martini de manufacture anglaise, et j'en abattis 3 gueux d'affilée. La vallée était pleine de créatures qui criaient, hurlaient, et chaque bouche gueulait. « Ni Dieu, ni diable, rien qu'un homme !» Les troupes de Bashkai tinrent bon pour Billy Fish. Comme elles purent. Mais leurs fusils à bassinet ne valaient pas de beaucoup les autres. De Kaboul, à chargement par la culasse. Et 4 hommes tombèrent. Dan beuglait comme un taureau de rage, et Billy Fish en avait plein les bras à l'empêcher de foncer sur la foule. « Il n'y a pas moyen de tenir, dit Billy Fish. Sauf qui peut, par la vallée. Tout le monde est contre nous. »
Les hommes courent, et nous descendons la vallée malgré les protestations de Dravot. Il jurait horriblement, criant qu'il était roi. Les prêtres nous firent rouler de grosses pierres dessus. L'armée régulière tirait à force, et il n'y eut pas plus de 6 hommes, sans compter Dan, Billy Fish et moi, qui arrivèrent vivants au bas de la vallée. Puis on cessa le feu, et les cornes se remirent à sonner dans le temple. « Venez, pour l'amour de Dieu, venez !» dit Billy Fish. « Ils enverront des courriers à tous les villages avant même que nous atteignions à Bashkai. Je réponds de vous, là, mais je ne peux rien faire pour l'instant. »
On ne m'ôtera pas de la tête que Dan commença à devenir fou dès ce moment-là. Il regardait en haut, en bas, les yeux écarquillés comme un cochon empaillé. Puis il voulut retourner afin de tuer les prêtres, de ses mains nues. Il l'aurait fait.
« Je suis un empereur, » disait Daniel, « et l'année prochaine je serai chevalier de la reine. »«
Très bien, Dan, que je dis, mais vient temps pour l'or pendant qu'il est temps. »«
C'est ta faute, » dit-il, « il fallait mieux surveiller ton armée. La révolte y couvait, et tu n'en savais rien. Sacré mécanicien, espèce de poseur de plaques, de tapeur de missionnaire de malheur. » Il s'assit sur un rocher et m'appela de tous les vilains noms qui lui passaient par la tête. J'avais le cœur trop gros pour que ça me fasse à rien. Pourtant, c'était sa folie seule qui avait causé la débâcle. Je suis fâché, Dan, que je dis, mais on ne peut pas compter sur des natifs. C'est notre 57 à nous, cette affaire. Bah, nous nous en tirerons peut-être encore une fois rendus à Bashkai. Allons à Bashkai, donc, dit Dan, et par Dieu, quand je reviendrai ici, je nettoierai si bien la vallée qu'il n'y restera pas un pou dans un tapis. Nous marchâmes tout le jour et toute la nuit, Dan trépignant dans la neige, rongeant sa barbe et marmottant tout seul. « Il n'y a pas de chance de s'en tirer, » dit Billy Fish. « Les prêtres auront envoyé des coureurs dans les villages dire que vous n'étiez que des hommes. Pourquoi n'avez-vous pas continué à faire les dieux jusqu'à ce que tout fût plus d'aplomb ? Je suis un homme mort. » Et il se jette de tout son long sur la neige et se met à prier ses dieux. Le lendemain matin, nous étions dans un sacré mauvais pays, tout en haut et bas, rien de niveau et rien à manger non plus. Les 6 hommes de Bashkai regardaient Billy Fish avec des yeux affamés, mais ils ne dirent pas un mot. À midi, nous arrivons en haut d'une montagne plate, toute couverte de neige. Et une fois grimpés sur le plateau, qu'est-ce que nous voyons ? Une armée rangée en bataille au beau milieu. Les courriers sont allés vite, dit Billy avec un petit rire. On nous attend. 3 ou 4 des ennemis commencèrent à tirer. Et une balle attrapa par hasard Daniel dans le mollet. Ça le remet de sang-froid. En regardant par-dessus la neige vers l'armée, il reconnaît les fusils que nous avions introduits dans le pays. Nous sommes foutus, qu'il dit. Ce sont des Anglais, ces gens, et c'est mes sacrées bêtises qui t'ont amené là. Retourne, Billy Fish, et emmène tes hommes. Tu as fait ce que tu as pu, sauve-toi maintenant. Carnéan, qu'il dit, serre-moi la main et va-t'en avec Billy. Peut-être ils ne te tueront pas. J'irai au-devant d'eux tout seul. C'est moi qui ai tout fait, moi, le roi. Tout seul, que je dis, va-t'en au diable, Dan. Nous sommes 2 ici. Billy Fish, défile-toi, et nous irons ensemble. Nous autres, au-devant de ces gens-là.
Je suis un chef, dit Billy Fish, tout tranquille. Je reste avec vous. Mes hommes peuvent partir. Les gars de Bashkai ne se le firent pas dire 2 fois et prirent la course. Dan et moi et Billy Fish, nous marchâmes vers l'endroit où les tambours battaient et où cornaient les cornes. Il faisait froid, terriblement froid. J'ai encore ce froid-là dans la nuque à 7 heures. Il y en a un morceau toujours là. Les coulis du pancas étaient endormis. 2 lampes à pétrole flamboyaient dans le bureau. La sueur ruisselait de mon visage et s'écrasait en grosses gouttes sur le buvard comme je me penchais en avant. Carnéan grelottait. J'eus peur que sa raison ne fléchît. Je m'épongeai le front et étreignis de nouveau ses mains pitoyables et mutilées et dis « Qu'arriva-t-il après cela ?» Mes yeux détournés un instant. Cela avait suffi pour rompre le courant lucide.
« S'il vous plaît, gémit Carnélien,
Ils les prirent sans faire de bruit. Pas un petit murmure sur toute l'étendue de neige, rien, malgré que le roi culbuta le premier qui lui mit la main dessus, ni quoi que le vieux Pitchet fît feu de sa dernière cartouche dans le tas. Pas le moindre petit bruit, les cochons. Ils se refermèrent sur nous, pas plus, mais serrés, et je vous prie de croire que leur fourrure puait. Il y avait un homme appelé Billy Fish, bon ami à nous, tous, et ils l'égorgèrent, monsieur, devant nous, comme un porc. Et le roi faisait voler du pied la neige rouge en disant « Nous en avons eu pour notre argent au moins. À qui le tour ?» Mais Pitchet, Pitchet Talafiero, je vous le dis, monsieur, entre nous, comme un ami, en confidence, il perdit la tête, monsieur. Non, il ne perdit ni l'une ni l'autre. C'est le roi qui perdit la tête, oui, tout le long d'un de ces rusés de pont de corde. Ayez la bonté de me passer le coup de papier, monsieur. Il versa le pont comme ça. On les fit marcher 1 mille sur la neige, jusqu'à un pont de corde, en travers d'un ravin, avec une rivière au fond. Vous en avez vu de pareil. On les piquait par derrière comme des bœufs. Dame des brutes, dit le roi, croyez-vous que je ne saurais pas mourir comme un gentleman? Il se tourne vers Pitchet, Pitchet qui pleurait comme un gosse. C'est moi qui t'ai conduit là, Pitchet, qu'il dit. Arraché à ta bonne vie pour te faire tuer en Kafiristan où tu étais, il n'y a pas longtemps général en chef des forces de l'empereur. Dis-moi que tu me pardonnes, Pitchet. Sûr que je te pardonne et de tout cœur, Dan. Ta main, Pitchet, dit-il. J'y vais maintenant. Et le voilà qui s'avance, sans regarder à droite ni à gauche. Et une fois arrivé en plein au milieu de ces sales cordes qui dansent deux vertiges, « Coupez, chien !» qu'il crie. Et il coupe, et mon vieux Dan tomba, en tournant sur lui-même, pendant 20 000 lieues, car il mit une demi-heure à tomber avant de toucher l'eau, et je voyais son corps aplati sur une pierre et la couronne d'or à côté. Mais savez-vous ce qu'il fira Pitcher entre deux troncs de pin? Ils le crucifièrent, monsieur, comme ça se voit en regardant mes mains. Ils lui enfoncèrent des chevilles de bois dans les mains et dans les pieds, et il n'est pas mort. Il resta accroché là, et il hurlait. On le descendit le jour suivant, et tout le monde dit que c'était un miracle qu'il ne fût pas mort. Ils le descendirent, pauvre vieux Pitchet, qui ne leur avait rien fait, qui ne leur avait... Il se mit à balancer en pleurant amèrement et s'essuyant les yeux du revers de ses mains scarifiées. Il gémit comme un enfant pendant quelques 10 minutes. Ils furent assez cruels pour lui donner à manger dans le temple, parce qu'il disait qu'il était plus Dieu que son vieux Daniel qui était homme. Puis ils le jetèrent dehors sur la neige et lui dirent de retourner dans son pays. Et Pitchet retourna. Il mit à peu près 1 année en mendiant le long des routes. Il n'avait pas peur parce que Daniel Dravot marchait devant et disait « Viens, Pitchet, c'est de grandes choses que nous faisons. » Les montagnes dansaient la nuit et elles tâchaient de tomber sur la tête de Pitchet. Mais Dan levait la main et Pitchet suivait tout le long et courbé en deux. Il ne lâchait jamais la main de Dan et il ne lâcha jamais la tête de Dan. Ils la lui donnèrent dans le temple pour qu'il se rappelle de ne plus revenir. Et quoique la couronne soit en or pur et que Pitchet eût faim, jamais Pitchet n'aurait voulu la vendre. Vous avez connu Dravot, monsieur? Vous avez connu le très vénérable Francis Dravot? Regardez-le maintenant! Il fouilla dans l'épaisseur des loques qui entouraient sa taille tordue, retira un sac de crin noir brodé de fils d'argent, et en secoua sur la table la tête desséchée et flétrie de Daniel Dravot. Le soleil matinal, car depuis longtemps les lampes avaient pâli,
frappa la barbe rouge, les yeux aveugles dans les orbites creuses, de même que le lourd cercle d'or incrusté de turquoise brut que Carnéan plaça tendrement sur les tempes blêmies.
Vous contemplez maintenant l'empereur en son appareil ordinaire, comme il vivait, le roi du Kafiristan avec la couronne en tête, pauvre vieux Daniel qui fut monarque une fois.
Je frémis, car défiguré par 20 blessures, je reconnaissais malgré tout la tête de l'homme que j'avais vu à la gare de Marwar. Carnéan se leva pour partir. J'essayai de le retenir. Il n'était pas en état d'affronter la température extérieure.
« Laissez-moi emporter le whisky et donnez-moi un peu d'argent, souffla-t-il. J'ai été roi autrefois. J'irai trouver le deputy commissionneur et demanderai une place à l'asile jusqu'à ce que j'aie retrouvé ma santé. Non, merci, je n'ai pas le temps d'attendre que vous me fassiez chercher un gari. J'ai des affaires particulières urgentes, dans le sud, à Marwar. »
Il sortit péniblement du bureau et prit la direction de la maison du deputy commissioner. Ce jour-là, à midi, ayant occasion de descendre le mail sous la chaleur aveuglante, j'aperçus un estropié qui se traînait dans la poussière au bord de la route blanche, son chapeau à la main, chevrotant douloureusement à la manière des chanteurs des rues en Europe. Il n'y avait personne en vue, et l'homme était hors de portée d'oreille des maisons les plus proches. Il chantait du nez en tournant la tête de droite et de gauche.
« The son of man goes forth to war, a golden crown to gain. His blood-red banner streams afore, who follow in his train. »
Je ne voulus pas en entendre plus long. J'embarquai le misérable dans ma voiture et le conduisis au missionnaire le plus proche, afin de transport éventuel à l'asile. Il répéta l'hymne deux fois pendant le temps qu'il passa avec moi, qu'il ne reconnaissait pas le moins du monde, et je le quittai, qu'il le chantait encore au missionnaire. Deux jours après, je m'enquis de son état auprès du directeur de l'asile. « On l'a reçu ici, atteint d'insolation, dit le directeur. Il est mort hier matin de bonne heure. Est-ce vrai qu'il a passé une demi-heure tête nue au soleil à midi ?»« Oui, dis-je. Mais savez-vous si par hasard, il n'avait rien sur lui quand il est mort ?»« Pas que je sache, dit le directeur. L'affaire en est restée là. »